Aujourd'hui dans Affaires Sensibles, Nicolas Sarkozy, la conquête du pouvoir. En juin 2005, l'étoile montante de la famille néo-gaulliste revient au ministère de l'Intérieur sous le gouvernement de Dominique de Villepin. Là, place Beauvau, il possède une armoire. Oui, une armoire dans laquelle il enferme ses petits secrets, notes personnelles sur les hommes, impressions de la rue et de la vie quotidienne, idées griffonnées à la va-vite, une dépêche AFP, un communiqué, un article de la presse régionale, les récriminations des uns ou des autres. Oui, depuis le début de sa carrière politique, il a tout conservé, scrupuleusement. Des cartouches, un arsenal même, qui lui permettra le moment venu d'étayer des démonstrations par des exemples, des détails concrets. Et si cette cigale était aussi fourmi? En tout cas, en 2007, il est fin prêt, cette élection présidentielle sera la sienne. 2 ans après, Nicolas Sarkozy entame sa campagne, pied au plancher, il tente tout, transgresse, provoque, promet, sacrifie sa vie familiale, et il impose peu à peu ses thèmes. Travail, immigration, sécurité, provoquant inlassablement le buzz. À 52 ans, l'ambitieux va créer une sorte d'état de fait du style « ce sera moi, parce que c'est comme ça ». Avec lui, la France a vécu un épisode rare de déterminisme politique. Notre invité, aujourd'hui, Frédéric Mettezeau, chef du service politique de France Inter. Affaires sensibles, une émission de France Inter en partenariat avec l'INA, préparée aujourd'hui par Margot Pinel, coordination Christophe Barrère, réalisation Jérôme Boulet.
Fabrice Drouel, Affaires sensibles, sur France Inter.
Alors, dans la réponse à sa dernière question, Laurent Fabius, dont vous parliez à l'instant, a reconnu que quand il se rasait le matin, en regardant son miroir, il lui arrivait de penser à la candidature à l'élection présidentielle. Vous avez dit tout à l'heure, au début de l'émission, que vous étiez ministre de l'Intérieur, rien que ministre de l'Intérieur et tout le temps ministre de l'Intérieur, mais vous vous rasez quand même le matin. Alors, quand vous vous rasez le matin, là, vous pouvez penser à autre chose qu'au ministère de l'Intérieur. Est-ce qu'il vous arrive, à ce moment-là, de penser à l'élection présidentielle?
Pas simplement quand je me rase.
Merci.
20 novembre 2003, sur le plateau de l'émission 100 minutes pour convaincre, diffusée sur France 2, le ministre de l'Intérieur, Nicolas Sarkozy, ne cache plus son ambition. Il la formule sans phare, comme toujours. Alors que l'élection présidentielle est encore loin, il ose la petite phrase qui entrera dans les annales, car tout est dit, la détermination, la transgression, le culot. C'est que faire président, comme il dit, c'est le rêve de sa vie. Il y songe depuis toujours, il y consacre toute son énergie, une tradition d'ailleurs, chez les candidats qui sont devenus présidents, une condition sine qua non même. À 20 ans, l'étudiant en droit Sarkozy adhère à l'UDR, l'Union des démocrates pour la République, unique fabricant de président jusqu'alors. Un bon placement. En 74, il participe à sa première campagne électorale, celle de Jacques Chaban-Delmas, battu au premier tour. Le jeune Nicolas Sarkozy, lui, est remarqué par Jacques Chirac, qui le fait entrer au RPR. Chirac, précisons-le, fossoyeur de Chaban à la présidentielle. Mais l'acte fondateur du sarkozysme, c'est sans aucun doute la prise de Neuilly en 1983, au nez à la barbe d'un cacique, Charles Pasqua. Mais oui, rien que ça. À cette époque, il a 28 ans, il fait ses gammes, il intègre les codes et les mécaniques d'une élection, d'une section, où les amis d'hier deviennent très vite les ennemis de demain. À la présidentielle de 95, il choisit de soutenir le candidat Édouard Balladur au détriment de son ancien mentor Jacques Chirac, qui est finalement élu. Mauvaise pioche. Et première traversée du désert pour celui qu'on accuse de trahison. 4 ans plus tard, son échec aux élections européennes l'isole un peu plus. Il perd son crédit, son parti, le RPR, mais il gagne en certitude. L'heure de l'émancipation a sonné. Ceux qui réussissent sont ceux qui le veulent plus que les autres, dit-il, parole d'expert. Alors, le maire de Neuilly travaille d'arrache-pied. Il voyage, il reçoit. Il se construit une culture historique. Il nourrit ses contacts dans les médias, les syndicats, les entreprises. Lors de ses incessantes tournées en province, il se construit aussi une vision politique, celle d'une droite dure, décomplexée, ouvertement libérale. Stratégie payante, il devient incontournable. À la présidentielle de 2002, le candidat Jacques Chirac n'a pas d'autre choix que de faire appel à lui. Il enchaîne meeting sur meeting et squatte les médias qui adorent le talent d'orateur de cet enfant de la télé. Mais le choc du 21 avril le cueille à froid. Il découvre qu'une grande partie du peuple de droite est allée voter pour le Front National. Une gifle qui tourne en humiliation personnelle, car pour Matignon, le président réélu lui préfère Jean-Pierre Raffarin. Sarkozy devient le numéro 2, ministre de l'Intérieur. Un véritable levier pour ambitieux cette place Beauvau, l'autre fabrique de président, où il impose son style et son rythme frénétique, à raison d'une initiative et d'un événement médiatique par jour, pas moins. Ça s'appelle « occuper le terrain » et créer un état de fait. Je suis l'homme qui monte, puisque c'est moi que vous voyez. Le 31 mars 2004, à la faveur d'un remaniement ministériel, il devient ministre de l'économie. Remis en scène politiquement, Nicolas Sarkozy décide de prendre la tête de l'UMP. Créé par Jacques Chirac en 2002 pour fédérer la droite, le parti vient de perdre son président Alain Juppé, condamné dans l'affaire des emplois fictifs de la ville de Paris. La place est libre, mais l'Élysée se capre. Le président de la République fait savoir qu'on ne peut pas être à la fois ministre et responsable d'un parti, ce qu'il a pourtant été lui-même, mais bon, c'est de bonne guerre. Le 14 juillet 2004, lors d'une conférence de presse, Jacques Chirac le répète avec insistance.
Je n'ai pas de problème de relation avec Nicolas Sarkozy, pas plus qu'avec aucun des membres du gouvernement. J'ai fixé une feuille de route au gouvernement. J'attends de chaque ministre, de tous les ministres, qu'il applique sa part de cette feuille de route sans aucune réserve. Personne n'est obligé d'être ministre. J'entends que chacun exécute.
Alors tant pis pour le ministère. Le 28 novembre 2004, Nicolas Sarkozy est élu triomphalement à la présidence de l'UMP avec 85,1% des voix. Il démissionne de Bercy dans la foulée. Désormais, il a tous les outils en main pour rassembler les militants autour de lui. Et il sait parfaitement ce qu'il veut faire du grand parti majoritaire. Une droite moderne et une droite équilibrée, dit-il, qui n'hésite pas à aller chercher des catégories qui n'ont jamais voté pour elle. Entendez, les classes populaires. Au rez-de-chaussée de l'immeuble de la rue de la Boétie, QG de l'UMP, un compteur égrène le nombre de nouveaux adhérents. 80 000 de plus en quelques mois. C'est l'effet Sarko. Le 30 mai 2005, au lendemain de l'échec du référendum de la Constitution européenne voulu par le chef de l'État, Jacques Chirac se sépare de son premier ministre, Jean-Pierre Raffarin. Nicolas Sarkozy se relance alors dans la course à Matignon, encore raté. Le président lui préfère Dominique de Villepin, rival notoire. Les deux hommes se détestent, ne sont d'accord sur rien, ni sur le fond, ni sur la forme. Ils gouverneront tout de même en tandem. Jacques Chirac rappelle Nicolas Sarkozy au ministère de l'Intérieur. D'accord, mais à ses conditions, c'est-à-dire sans abandonner la présidence de l'UMP. Le revoilà donc sur le devant de la scène, dans les habits du premier flic de France. Avec ses tics, ses gestes saccadés, ses formules viriles, il ne change rien à son style, bien au contraire. Son truc à lui, c'est le parler vrai. Quitte à heurter les magistrats, quitte aussi à se couper d'une partie de la jeunesse, lorsque sur la dalle d'Argenteuil, en novembre 2005, il emploie les mots « karcher » ou « racaille ». Florilège.
Vous en avez assez, hein ? Vous avez assez de cette bande de racailles. On va vous en débarrasser.
Le terme « nettoyer » au karcher est un terme qui s'impose. Parce qu'il faut nettoyer cela.
Le message, il est très simple. Je ne tolérerai pas des comportements de voyous à Perpignan ou ailleurs.
Quand je vois des bandes qui trafiquent de la drogue dans les halls d'immeubles, il faut nettoyer.
Moi, voyez-vous, je me sens du côté des victimes.
Mais qu'est-ce que vous répondez à la colère des magistrats aujourd'hui ?
Je réponds à la colère des victimes.
Ah bon ?
Et elle me paraît plus importante.
S'il y en a que ça gêne d'être en France, je le dis avec le sourire mais avec fermeté, qu'il ne se gêne pas pour quitter un pays qu'il n'aime pas.
Je ne retire rien, je ne regrette rien, je ferai ce que j'ai dit et nous aurons les résultats, ça prendra le temps qu'il faudra.
Depuis la place Beauvau, Nicolas Sarkozy poursuit méthodiquement sa marche vers le pouvoir. Les Chiraciens, qui lui ont jamais pardonné son soutien à Balladur, la présidentielle de 95, sa trahison, pensent encore pouvoir lui barrer la route. Dominique de Villepin en tête. Mais au printemps 2006, à un an de l'élection présidentielle, le chef du gouvernement a un genou à terre. Éclaboussé par l'affaire Clearstream, dans laquelle il a joué le rôle de l'arroseur arrosé, affaibli par l'échec du CPE, le contrat première embauche, il est le premier ministre le plus impopulaire de la Ve République. Nicolas Sarkozy, lui, caracole dans les sondages. Son rival éliminé, il ne pense plus maintenant qu'à asseoir sa légitimité et à organiser sa campagne. Avec un concept inédit pour la droite, ce sont désormais les militants de l'UMP, les siens, qui désigneront le candidat à la présidentielle. Le 30 novembre, il annonce officiellement sa candidature à la primaire de l'UMP. Un secret de polichinelle, bien sûr, mais il met les formes. Il organise la publication d'une interview dans tous les quotidiens régionaux. 1 million d'exemplaires. Le soir même, il répète sa profession de foi sur le plateau de l'émission « À vous de juger » sur France 2.
Oui, je serai candidat à l'élection présidentielle. C'est une décision que j'ai mûrement réfléchie. C'est une décision qui m'engage. Je veux que les Français retrouvent confiance dans la parole politique et dans les hommes politiques. Je veux décliner ces deux valeurs que sont la confiance, confiance dans la parole donnée, et le respect.
Alors vous dites que c'est l'affirmation d'une ambition, en fait, ou c'est la bataille de toute une vie. C'est une ambition personnelle, non ?
Bien sûr qu'il y a un projet. Mais ma grande ambition, j'aime mon pays. Je ne me résous pas à l'idée que tous ceux qui veulent s'en sortir se disent que les choses sont figées dans mon pays. Je voudrais que chacun se comprenne que si le matin en se levant, il peut enfin se dire « tout est possible ». Tout peut devenir possible. Je ne parle pas de celui qui gagne, je ne parle pas des champions, je ne parle pas des vainqueurs. Je parle de celui qui pense que c'est jamais pour lui. De celui que la vie a cassé, de celui que la vie a brisé, de celui qui a mis un genou à terre. Je veux lui dire, tout peut devenir possible.
La popularité de Nicolas Sarkozy décourage ses rivaux, et notamment la ministre de la Défense, Michèle Alliot-Marie. Si bien qu'il est le seul candidat. Au début du mois de janvier 2007, 327 000 adhérents sont appelés à voter sur Internet. Plébiscite assuré. Reste à mettre en scène son entrée en campagne. Elle a lieu le 14 janvier 2007 à la porte de Versailles, 4 mois avant la grande échéance. Pour son sacre, Nicolas Sarkozy a vu grand, très grand. Le spectacle est dit d'un show à l'américaine. Écran géant, caméra sophistiquée, éclairage grandiloquent. 8 TGV et 520 cars sont affrétés dans toute la France. Facture officielle, 3,5 millions d'euros. Des gaullistes aux chiraciens, tout le monde est là. À la tribune, Jean-Pierre Raffarin, Alain Juppé ou encore Xavier Bertrand se succèdent pour vanter les mérites du ministre candidat. Sans compter les people, qui ont une place à part entière dans la galaxie Sarkozy. Johnny Hallyday, Doc Gineco, Christian Clavier, pour ne citer que. Absence notoire, celle de Dominique de Villepin. Si Sarkozy n'a pas une image de rassembleur, il a pourtant rassemblé beaucoup de monde, près de 60 000 personnes. À 14h, les résultats s'affichent. Il est désigné candidat à la présidentielle à 98,1%, mais avec un taux de participation de seulement 69%. Alors, le héros du jour monte à la tribune et se lance dans un discours fleuve d'1h20. « J'ai changé », assure-t-il avec émotion. Et après une longue diatribe sur son histoire de France, il égrène ses thèmes de campagne. Immigration, sécurité, pouvoir d'achat et son fameux « travailler plus pour gagner plus ».
Je vous propose que nous passions de la République virtuelle à la République réelle. La République réelle, c'est celle qui fait plus pour celui qui veut s'en sortir et qui fait rien, pour celui qui ne veut rien faire et dont la société ne peut pas accepter qu'il vive à son crochet. Je vais être celui qui vous garantit que si vous travaillez plus, si vous prenez plus de risques, si vous vous engagez plus, vous gagnerez davantage. Je vais être le président du peuple, le peuple qui a bien compris que les RTT ne servent à rien si on n'a pas de quoi payer des vacances à ses enfants.
L'impact de ce discours est immédiat. La presse, dans son ensemble, salue l'exploit. Et dès le lendemain, Nicolas Sarkozy gagne 2 points dans les sondages. Cette réussite est en grande partie l'œuvre d'Henri Guénaud, sa plume depuis 6 mois. Soucieux d'adoucir son image, il est parvenu à faire évoluer le discours caricatural de Nicolas Sarkozy. Sous ses mots, le chantre du libéralisme et du communautarisme, l'américanophile, l'ami des riches et des puissants, se transforme en un républicain modéré, pénétré de valeurs gaullistes, habité par l'histoire. Au soir du congrès, le pari semble réussi. Il a rassuré les siens et inquiété ses adversaires. Mais rien n'est jamais joué dans une élection présidentielle. Et d'ailleurs, qui sont-ils ces adversaires désignés ? Sa principale rivale s'appelle Ségolène Royal. À 4 mois de l'échéance, elle est même la favorite. Depuis sa désignation par les militants socialistes le 26 novembre 2006, elle incarne une espérance, une sorte de renouveau. Cette femme de caractère au visage de Madone réussira-t-elle à faire taire les divisions et les rivalités qui minent le PS depuis 5 ans ? parviendra-t-elle à laver le parti de la déchirante défaite de 2002 ? À gauche, on veut y croire, et pour cause. La Poitevine cartonne dans les enquêtes d'opinion. Aux côtés de Nicolas Sarkozy, elle fait la course en tête, tous deux crédités de 30% d'intention de vote au premier tour. La France est en pleine ségomania, dit-on, ou en pleine sarcophobie, c'est selon. Mais en ce début d'année 2007, la candidate socialiste accuse un petit retard. Sa méthode, basée sur les débats participatifs organisés par son association Désir d'Avenir, ne convainc pas. Les militants, comme les éléphants du PS, s'impatientent. Elle n'a toujours pas présenté son programme. À ceci s'ajoute une série de gaffes, d'imprécisions et d'approximations qui mettent en doute sa capacité à exercer la fonction présidentielle, à gérer une crise internationale. Le 11 février 2007, elle présente enfin son programme. Parmi ses propositions, 500 000 emplois tremplin, hausse de 5% des petites retraites, doublement du budget de la justice, davantage de moyens pour l'éducation. Une semaine plus tard, elle défend son pacte républicain sur le plateau de TF1 dans l'émission « Une question à vous poser ». Avec 9 millions de téléspectateurs, elle explose les audiences. Alors, à l'UMP, on s'inquiète et la peur change de camp. D'autant qu'un troisième homme vient perturber la donne, le centriste François Bayrou. Depuis plus d'un an, les médias ne cessent de mettre en scène le match Sego-Sarko. Oui, mais c'était sans compter sur le trouble fait qui fait une remarquable percée dans les sondages. Il profite aussi de la stagnation du candidat du Front National, Jean-Marie Le Pen, qui mène une campagne atone. La méthode du centriste, fustiger les médias, renvoyer dos à dos la gauche et la droite et dénoncer le système. Une stratégie payante. Il est crédité de 14% des voix. Le 30 janvier 2007, en visite à Nîmes, il peine à cacher son enthousiasme.
C'était un besoin et c'est une attente des Français de trouver une solution qui leur permette d'échapper au duel, je dis quelquefois au duo, dans lequel on voudrait les enfermer. Et en même temps, les Français, en se regroupant comme ça autour de moi, ils montrent qu'ils cherchent une approche politique différente.
Je vous le dis à l'avance, pour une campagne électorale, 3 mois c'est très long. Alors vous avez intérêt à accrocher vos ceintures, à préparer les airbags et à appuyer sur l'accélérateur parce qu'on va avoir beaucoup, beaucoup besoin de vous pour cette campagne électorale.
Pour Nicolas Sarkozy, il faut redonner du rythme à la campagne et reconquérir enfin ces fameuses classes populaires. Le 8 mars 2007, dans l'émission « À vous de juger » sur France 2, il décline une fois encore ses priorités. Il promet également une nouvelle loi sur l'immigration destinée à encadrer les regroupements familiaux. Et puis, il lance sa bombe.
Je crois qu'un pays de 64 millions d'habitants doit avoir un nombre limité de ministères, mais des ministères rebâtis. Par exemple, je veux un ministère de l'immigration nationale et de l'identité nationale, parce qu'aujourd'hui, le dossier de l'immigration est explosé en 3 ministères différents.
Sur le plateau, aucune réaction. Mais le lendemain, le tollé est unanime. L'EPS dénonce un flirt poussé avec les thèses du Front National. Bayrou renchérit. Il estime qu'en enfermant dans la même phrase l'immigration et identité nationale, Sarkozy a franchi une barrière. L'intéressé, lui, fait l'étonner, mais il le sait. Quand il dit « La France, tu l'aimes ou tu la quittes », il apparaît comme l'homme du parler vrai, de l'anti-pensée unique. Sarkozy bouscule l'effet d'une pierre deux coups, avec au passage un clin d'œil à l'électorat du Front National. Gagné, il se remet au centre du jeu et stoppe sa chute dans les sondages. Le 26 mars 2007, il quitte le ministère de l'Intérieur. À cette occasion, Jacques Chirac lui apporte enfin son soutien, bon, discrètement tout de même. Voilà, tout est en place pour le sprint final. 12 candidats sur la ligne de départ. Et si l'on s'oriente bel et bien vers une finale classique droite-gauche, Sarko contre Sego, des incertitudes demeurent. Nicolas Sarkozy sortira-t-il vainqueur du premier tour? Ségolène Royal parviendra-t-elle à rassembler les électeurs de gauche? François Bayrou confirmera-t-il sa percée historique? Jean-Marie Le Pen sera-t-il le troisième homme?
Dès les premières lueur, oh, je sombre.
France Inter.
Élection présidentielle, premier tour, 12 candidats en lice, 44,5 millions d'électeurs et parmi eux 3 300 000 nouveaux inscrits. C'est donc l'heure du choix. Les bureaux de vote ont ouvert ce matin à 8h et ils fermeront ce soir à 18, 19, voire 20h dans les grandes villes comme Paris. Dans un instant, nous ferons un tour de France avec les photos sonores des personnalités et candidats qui ont déjà voté. Mais d'abord, le chiffre le plus important de cette mi-journée, il concerne le taux de participation. Les Français ont beaucoup voté durant la matinée. Le taux de participation est élevé. 31,21% de participation à midi. C'est le chiffre officiel communiqué par le ministère de l'Intérieur.
Dimanche 22 avril 2007, fin d'après-midi. Dans son QG de la rue d'Anguin, dans le 10e arrondissement de Paris, Nicolas Sarkozy s'est enfermé dans son bureau, téléphone vissé à l'oreille. Son chef de cabinet, Laurent Soli, lui donne les premières fourchettes. Le candidat de l'UMP recueillerait entre 26 et 28% des voix. Ségolène Royal serait, elle, entre 22 et 26. Un résultat conforme aux prévisions. À 27, on sera content, disait-on dans l'entourage de Sarkozy la veille du premier tour. Le candidat centriste, François Bayrou, lui, serait à moins de 20%. Dans l'atrium du QG, noir de monde, des milliers de militants trépignent d'impatience. Ils sont rejoints par la famille du candidat, Cécilia et ses enfants, ainsi que par quelques amis, Jean Reynaud, Christian Clavier ou encore Faudel. À 18h30, suite au premier dépouillement, les estimations se précisent. Et, surprise, Nicolas Sarkozy pourrait bien dépasser les 30%. Quasiment personne n'avait prévu un score aussi élevé. Aussitôt, le candidat réunit ses proches. Tous se regardent, incrédules. Puis, c'est l'explosion de joie. Jamais depuis Valéry Giscard d'Estaing en 1974, la droite n'avait réalisé un aussi bon score. À ses porte-paroles, Rachida Dati, Xavier Bertrand, Sarkozy donne la tonalité des futures interventions médiatiques. Surtout ne pas crier victoire, même si elle a porté de main, non. À 20h, les résultats officiels tombent.
Avec un peu plus de 11 millions d'électeurs, Nicolas Sarkozy prend la tête de ce premier tour. 31,1% des voix. Ségolène Royal, l'autre qualifiée pour le deuxième tour, est elle à 25,8%, soit environ 9 300 000 électeurs. Sur la troisième marche du podium, François Bayrou obtient 18,5% des voix. Quatrième, Jean-Marie Le Pen, 10,5%. Il perd plus d'un million de voix par rapport au premier tour de 2002. Tous les autres candidats sont sous la barre des 5%.
La candidate socialiste Ségolène Royal est restée dans son village de Mel, dans les Deux-Sèvres. Distanciée de 5 points, elle accuse le coup. Dans les médias, on attend sa déclaration, en vain. Les allocutions des autres candidats se succèdent. Nicolas Sarkozy promet un nouveau rêve français. François Bayrou et Jean-Marie Le Pen ne donnent pas de consigne de vote. Finalement, Ségolène Royal apparaît sur les écrans, mais à 21h40. Elle voulait prouver qu'une femme pouvait devenir présidente. Qu'une autre façon de faire de la politique était possible. Trop originale sûrement, trop marginale peut-être. Alors, après un long discours monocorde, Ségolène Royal en appelle aux électeurs centristes. Elle joue son va-tout, le vote tout sauf Sarko et son unique chance de victoire au second tour. La droite, donnée gagnante dans tous les sondages, est gonflée à bloc. Le dimanche 29 avril 2007, à Bercy, Nicolas Sarkozy continue de mener campagne, tambour battant. Il prononce un discours de rupture, clairement à droite, fustigeant l'héritage de B68, responsable, selon lui, de l'affaissement moral et du déclin de la France. Une manière de se rôder à quelques jours du débat d'entre-deux-tours. Mai 2007, plus de 20 millions de téléspectateurs sont devant leur poste de télé. Pendant plus de 2h30, le match Ségo-Sarko prend corps en images et en mots, avec un moment d'anthologie qui restera dans les annales des débats télévisés. Alors que Nicolas Sarkozy promet que tous les enfants handicapés auront une place dans le système scolaire, Ségolène Royal s'indigne.
On atteint le summum de l'immoralité politique. Lorsque j'étais ministre de l'enseignement scolaire, c'est moi qui ai créé le plan Handiscol, qui a demandé à toutes les écoles d'accueillir tous les enfants handicapés. Et c'est votre gouvernement qui a supprimé non seulement le plan Handiscol, qui a supprimé les aides éducateurs et qui fait qu'aujourd'hui, moins d'un enfant sur deux qui était accueilli il y a 5 ans dans l'école de la République ne le sont plus aujourd'hui. Et je trouve que la façon dont vous venez de nous décrire comme ça la larme à l'œil, le droit des enfants handicapés d'intégrer à l'école, et les parents et les familles qui vous
calmez-vous,
et les parents, non, je ne me calmerai pas.
Ne montrez pas du doigt avec cet index pointé, parce que franchement,
non, je ne me calmerai pas.
Je voudrais, président de la République, il faut être calme.
Non, pas quand il y a des injustices.
Je ne sais pas pourquoi Madame Royal, d'habitude calme, a perdu ses nerfs.
Non, je ne perds pas les nerfs. Je suis en colère. Ça n'est pas pareil. Pas de mépris, Monsieur Sarkozy. Pas de mépris. Et il y a des colères très saines et très utiles.
Je ne sais pas pourquoi Madame Royal s'énerve.
Je ne m'énerve pas. Je suis en colère.
Qu'est-ce que ça doit être quand vous êtes énervé, alors ?
Alors, qui a gagné ? Eh bien, tout le monde, comme d'habitude. Oui, dans les deux camps, on crie victoire. Pour la gauche, Ségolène Royal a montré sa pugnacité, elle a fait preuve d'empathie et de sincérité. Mais si elle a été convaincante sur les thématiques de l'environnement et de l'éducation, elle est restée imprécise sur de nombreux points, comme le financement des retraites, par exemple, les 35 heures ou la hausse du niveau de vie. Nicolas Sarkozy, lui, est resté calme, courtois. Il n'est pas tombé dans le piège de son adversaire et de ses multiples provocations. À plusieurs reprises, au contraire, il l'a mise face à ses contradictions et ses approximations. Pour autant, à la sortie du plateau de télé, il n'est pas très content de lui. Non, il s'est trompé sur les chiffres du nucléaire français. Il n'a pas réussi à déstabiliser complètement Ségolène Royal. Il n'a pas su se défendre sur la question des handicapés. Ce qu'on retient, en revanche, c'est que les deux protagonistes ont été à contre-emploi de la personnalité affichée durant toute la campagne. Elle, rebelle et agressive, lui, calme et souriant. Ce changement d'attitude permettra-t-il à Ségolène Royal d'inverser la tendance ? Réponse dans 5 jours, date du second tour de l'élection présidentielle. À voter. Dimanche 6 mai 2007, peu avant 20h, le visage du nouveau président français s'affiche sur nos écrans de télé, petite ritournelle bien connue et suspense de rigueur.
Les derniers bureaux de vote sont en train de fermer dans les grandes villes. Ségolène Royal ou Nicolas Sarkozy, vous voyez leurs partisans à gauche. Et à droite, ça y est, les Français ont tranché et c'est dans quelques secondes maintenant que vous allez découvrir notre estimation dont on peut dire qu'elle montre un écart conséquent. Voici le résultat de notre estimation Ipsos Del. C'est Nicolas Sarkozy qui est élu président de la République avec 53% des voix. Résultat salué par une ovation de ses supporters. Salle gavée.
Voilà, Ségolène Royal n'a pas gagné son pari. Les centristes, ceux qu'elle voulait conquérir en priorité, ne sont pas allés voter pour elle. Selon une estimation, 51 ont choisi Nicolas Sarkozy, 25% Ségolène Royal et 24 sont restés centristes, ni l'un ni l'autre. Pour Nicolas Sarkozy, c'est une victoire éclatante. 53,06% des voix et une mobilisation record. 84% des Français sont allés voter, et ce malgré les appels à l'abstention de Jean-Marie Le Pen et l'absence de consigne de vote de François Bayrou. Il s'agit donc d'un vote d'adhésion en faveur du candidat de l'UMP. À 52 ans, Nicolas Sarkozy réalise le rêve de sa vie, faire président. Seule ombre au tableau, sa femme Cécilia, qui n'est pas allée voter au deuxième tour. Déjà en 2005, Nicolas Sarkozy n'hésitait pas à commenter publiquement ses problèmes de couple, brisant là encore un tabou. L'absence de Cécilia Sarkozy en ce jour électoral est d'autant plus remarquée. D'ailleurs, elle le quittera 5 mois plus tard. Mais à l'heure des célébrations, la photo de famille est souriante. Avant de rejoindre la place de la Concorde, où l'attendent 30 000 personnes, le nouveau chef de l'État réunit ses proches au Fouquet's, brasserie chic des Champs-Élysées. Parmi les invités, les plus grandes fortunes de France, comme Martin Bouygues ou Bernard Arnault. Ce sera la première polémique du quinquennat. Dès le début, cette soirée devient le symbole d'une présidence bling-bling, toujours du côté des riches et des puissants. Nicolas Sarkozy lui annonce déjà un déplacement à Bruxelles et à Berlin pour rencontrer la chancelière allemande, Angela Merkel. La campagne terminée, il ne compte pas ralentir le rythme. La veille du second tour, avec ses propres mots, il se retournait déjà avec un orgueil sur son histoire. « Si je suis élu président, je l'aurais bien mérité, s'il le dit. »
Stronger. I need you to hurry up, man, 'cause I can't wait much. much longer. I know I got to be right now, cause I can't get much stronger. Man, I've been waiting all night now, that's how long I've been on ya.
I need you right now. I need you right now.
Let's get lost tonight. You could be my black Kate Moss tonight. Play secretary, I'm the boss tonight. And you don't give a f- what they all say, right? Awesome, the Christian and Christian Dior. Damn, they don't make them like this anymore. I ask, cause I'm not sure. Do anybody make real s*** anymore? Bow in the presence of greatness, cause right now that has forsaken us. You should be honored by my lateness, that I would even show up to this place. So go ahead, go nuts, go ace. Especially in my pastel on my page. Act like you can't tell who made this new gospel, homie. Take six and take this, haters. That don't kill me, can only make me stronger. I need you to hurry up now, cause I can't wait much longer. I know I got to be right now, cause I can't get much stronger. Man, I've been waiting all night now, that's how long I've been on ya.
France Inter, Affaires sensibles, Fabrice Drouel.
Aujourd'hui, Nicolas Sarkozy, la conquête du pouvoir en 2007. Notre invité, le journaliste Frédéric Mettezo, chef du service politique de France Inter. Bonjour Frédéric.
Bonjour Fabrice.
Bon, vous n'avez pas toujours été chef. Avant d'être chef, vous étiez journaliste.
Je suis toujours journaliste.
Vous êtes toujours journaliste. Est-ce qu'en 2007, vous étiez déjà journaliste? Est-ce que vous avez couvert cette campagne?
Alors, en 2007 précisément, j'étais journaliste. J'ai pas couvert directement cette campagne. J'étais à l'époque déjà journaliste à Radio France. J'étais en poste à France Bleu Nord, donc correspondant. À Lille, et accessoirement, j'étais en congé paternité parce que ma petite fille est née en 2007, donc j'ai très peu suivi cette campagne de 2007. En revanche, comme jeune reporter à France Inter, jeune reporter en contrat à durée déterminée à l'époque, j'avais vu les premières années de Nicolas Sarkozy ministre en 2002,
oui.
2003. Vous présentiez le journal de 13h à l'époque, Fabrice, et déjà tout était en germe. Tout était écrit sur ce Sarkozy vibrionnant, vous disiez dans votre narration, un événement par jour. Moi, j'ai plutôt souvenir que c'était trois événements par jour. Nicolas Sarkozy nous amenait dans le RER, il nous amenait dans les commissariats, dans les écoles. J'ai vu, non pas la campagne en tant que telle, mais j'ai vu la fabrication de cette espèce de on va pas dire de monstre politique, mais au sens monstre politique d'homo politicus. Tout était tourné vers la conquête. Tout était transgression. Il faut se souvenir, il vous prenait par le bras, il vous demandait si vous aviez compris. Il était prêt à rester 10 minutes pour vous convaincre que sa politique était la bonne. Et puis, on s'en souvient très bien. C'était une nouveauté, Nicolas Sarkozy, sur ces années. Vous commencez en 2005, mais dès 2002, Il casse tous les codes. Il est très souvent avec son épouse, Cécilia Sarkozy. Il se met en scène dans des tas d'opérations. Il va à la fois jouer le copain des journalistes, à la fois les rabrouer quand il faut. Et puis, c'était un, deux, trois événements par jour. Il y avait tellement de nouveautés que c'était difficile de résister à la mécanique Sarkozy. Il avait compris une chose, en fait, qui vaut dans beaucoup de domaines de la société, c'est celui qui tient l'agenda, il a déjà fait 50% du chemin.
Oui, parce qu'il marque le tempo. Effectivement, il crée, je le disais dans le récit, une sorte d'état de fait. C'est-à-dire qu'il arrive à nous faire intégrer à la majorité des Français, qu'on retrouvera au soir du deuxième tour, que le candidat, c'est lui, et que le président, ça ne peut être que lui. Parce que, comme il dit, il auto-décrète, si vous voulez, que la France le veut.
Oui. Il autodécrète et puis quand il est ministre de l'Intérieur, il se permet de parler relations internationales, de parler questions d'éducation, questions d'école. Voilà, ça y est, il parle de tout. Il est déjà président. L'archive que vous avez passée, la toute première archive, le 20 novembre 2003, j'y pense pas seulement en me rasant. On est seulement un an et demi après l'élection présidentielle. Jacques Chirac a encore 3 ans et demi de mandat à faire. Bah ça y est, pour Sarkozy, c'est fait, c'est « je serai candidat ». On n'est pas le 20 novembre 2006, on est le 20 novembre 2003.
Alors c'est étrange quand même de la part de ses adversaires, de sa famille politique, on va dire la Chiraki, de lui confier Place Beauvau. On sait très bien que Place Beauvau, c'est une machine à faire de président. Parce que Place Beauvau, c'est un poste d'observation et d'action privilégié. C'est plus qu'un ministère, le ministère de l'Intérieur, c'est un levier.
C'est un levier parce que vous avez des réseaux extrêmement puissants, vous avez énormément de choses qui se passe dans le pays. Vous avez beaucoup de choses sur la classe politique, hein, ce qu'on appelle, je crois, les petites notes bleues, hein, les notes qui remontent tous les matins sur le bureau du ministre. Et puis, il faut se souvenir qu'en 2002, Nicolas Sarkozy devient ministre de l'Intérieur après que Jean-Marie Le Pen s'est qualifié pour le second tour. Il y avait donc une peur des Français. Était-elle légitime? Était-elle fondée? Ça, c'est pas à nous d'en juger aujourd'hui, mais il y avait une peur de l'insécurité, une peur de la délinquance. Et Jacques Chirac, qui était aussi et qui est longtemps demeuré un politique exceptionnel, savait qu'il fallait un homme musclé
pour incarner
Place
ça.
Beauvau. Voilà, Jacques Chirac avait fait toute sa campagne, enfin une bonne partie de sa campagne, à dénoncer le laxisme de la gauche et de Lionel Jospin en matière de sécurité et de lutte contre la délinquance. Donc oui, effectivement, il a fait rentrer le loup dans la bergerie, mais en termes de réussite et de fonctionnalité, Nicolas Sarkozy était le candidat le plus efficace au ministère de l'Intérieur. Et puis aussi, quand on est élu avec 82% des voix face à l'extrême droite, il faut aussi montrer qu'on est prêt, si ce n'est à réunir la droite et la gauche, au moins déjà qu'on réunit sa propre famille politique. Il y avait aussi un point de vue tactique de Jacques Chirac.
Et d'un point de vue tactique, maintenant, concernant Nicolas Sarkozy, il y a ce qu'on appelle la triangulation. Alors, il en a usé. Non, on va même pas dire abusé, parce que c'est ce qui l'a fait gagner aussi.
La triangulation, c'est Tony Blair, le premier, qui s'est joué avec ça. La triangulation, c'est s'emparer de thématiques qui ne sont pas forcément les thématiques naturelles de votre camp. Et puis, c'est aussi tenir des propos qui ne sont pas forcément les propos attendus. Vous avez souligné dans votre récit, à juste raison, que Nicolas Sarkozy annonce la création du ministère de l'identité nationale et de immigration et identité nationale. Le même Nicolas Sarkozy, à une époque, était plutôt favorable au droit de vote des étrangers. Il était partisan d'une laïcité plus souple, on va dire presque un peu à l'américaine. Nicolas Sarkozy, il a tenu des propos qui n'étaient pas des propos de cette droite identitaire qu'il a pu tenir plus tard. Ça, c'était la triangulation. Quand il est ministre de l'économie, il nationalise partiellement Alstom pour, à l'époque, sauver l'usine, ce que Montebourg n'a jamais réussi à faire.
Et il n'abolit pas les 35 heures.
Il n'abolit pas les 35 heures.
Alors, sous la plume
François Fillon lui a beaucoup reproché.
D'ailleurs, oui, et c'est pour ça que François Fillon, dans sa campagne, a dit on va pas prendre de demi-mesure. Moi, je vais faire ce que le président que j'ai servi en tant que Premier ministre n'a pas fait. Alors, si il a réussi à aller au-delà de son avoir un discours, Nicolas Sarkozy, au-delà de la droite génétiquement pure, si j'ose dire, c'est aussi grâce à Henri Guénaud, sa plume, Henri Guénaud qui lui a fait citer à maintes reprises Léon Blum et Jean Jaurès. On va écouter les explications d'Henri Guénaud lui-même. Même sur ce point, au micro de France Inter, c'était le 27 janvier 2007.
Vous n'êtes pas responsable, Henri Guénaud aussi, justement, d'un brouillage de l'image. Est-ce qu'il suffit de dire Blum et Jaurès pour endosser cette histoire-là? Est-ce que ce ne sont pas simplement des marqueurs comme ça qui clignotent et qui disent gauche, gauche, gauche?
Alors ça, c'est vous le recevez peut-être comme ça, Monsieur Hollande et Madame Royale aussi, mais ça n'était pas notre intention. Moi, je lis Jaurès et Blum depuis longtemps, bien que n'ayant jamais été socialiste de ma vie. Ces gens appartiennent à l'histoire de France. Ils n'appartiennent ni à l'histoire du Parti socialiste, ni à l'histoire du Parti communiste. Ils appartiennent à tout le monde. Tout ça est intéressant à deux titres. La première chose, c'est qu'aurions-nous été nous-mêmes il y a 50 ans ou 100 ans? Moi, j'ai dit un jour, ça a un peu choqué, mais je vais le répéter. J'aurais sans doute préféré, vu d'aujourd'hui, être du côté du Front populaire et de ceux qui faisaient les congés payés, plutôt que de ceux qui trouvaient que les congés payés c'était un grand scandale économique. Non, mais ce que je veux dire, c'est que nous sommes les héritiers aussi des congés payés du Front populaire.
Voilà, c'était l'explication de texte et la méthode du discours, non pas le discours de la méthode.
C'est la triangulation en action, Henri Guénot. J'ajoute que c'est aussi une conviction chez lui. Henri Guénot, c'est quelqu'un qui se présente comme un gaulliste. C'était l'un des très proches de Philippe Séguin. C'est pas du tout la même droite que Nicolas Sarkozy. D'ailleurs, Philippe Séguin était-il de la droite? C'est beaucoup plus compliqué que ça. Donc effectivement, le fait que Henri Guénot prête sa plume et ses mots à Nicolas Sarkozy, en soi, c'était déjà une forme de triangulation et une façon aussi, là encore, de réunir la grande famille de la droite.
Alors, nous aussi on va être un peu transgressif parce que c'est pas la fonction d'un journaliste de dire « il paraît que ». Mais enfin, il y aurait eu quand même intimidation de la part de Nicolas Sarkozy sur d'autres leaders de son mouvement qui auraient pu vouloir se présenter. Y a-t-il eu une certaine méthode d'intimidation ?
Une chose est sûre, Nicolas Sarkozy, il sait instaurer le bras de fer.
Il sait se mettre
Le rapport de force. Il sait se mettre en colère. Il a quelque chose qui saute pas forcément aux yeux. C'est aussi quelqu'un qui est capable de pardonner. Il a, contrairement à Jacques Chirac par exemple, il a la rancune beaucoup moins longue. Alors, qu'est-ce qui s'est dit dans le secret du ministre de l'Intérieur ou du président de l'UMP de l'époque? Je ne le sais pas. Après, on sait tous qu'il y a eu, par exemple, cette affaire Clearstream. Attention, je ne dis pas que Nicolas Sarkozy, d'ailleurs, personne ne lui a jamais reproché d'avoir instrumentalisé cette affaire, etc. Mais vous vous souvenez du croc de boucher?
Oui.
C'est sorti dans la presse. Oui. C'est arrivé aux oreilles de Dominique de Villepin, qui lui était soupçonné d'avoir manipulé. En réalité, ni l'un ni l'autre n'ont effectivement manipulé. Vous aviez fait un affaire sensible sur cette affaire Clearstream, c'est beaucoup plus complexe. Mais le croc de boucher, quand on veut que ça sorte, quand on fait sortir cette phrase à dessein dans la presse, c'est pour arriver aux oreilles des rivaux.
Bien sûr.
Et c'est une forme d'intimidation, c'est évident. J'ajoute juste une chose, c'est que je pense qu'en réalité, à l'époque, Nicolas Sarkozy n'avait pas de rival sérieux à droite. D'abord, Jacques Chirac, on sait qu'il ne va pas se représenter. Ensuite, Alain Juppé, il est bloqué par ses affaires judiciaires. Il est à l'époque mis en examen, puis jugé sur les emplois fictifs de l'hôtel de ville. Dominique de Villepin, il est effectivement institutionnellement quelqu'un de très important.
Il est englué.
Il est englué d'abord dans l'affaire Clearstream. C'est un proche de Jacques Chirac. Et puis, il n'a pas autant de réseaux que Nicolas Sarkozy. Il n'a pas labouré le pays. Il n'a pas tout ce cursus honorum qui lui a permis d'être maire, d'être conseiller départemental, de travailler le parti, les fédérations, tout ça, Dominique de Villepin, ça l'embêtait. Il était beaucoup plus soit dans les grands discours internationaux, soit dans la poésie. Donc, je pense qu'à l'époque, et je le pense encore plus rétrospectivement, c'est facile de faire l'histoire 10 ans après, je pense que Nicolas Sarkozy n'a pas eu de vrai rival sérieux à droite.
Alors, il s'est présenté, ça c'est formidable quand même, Nicolas Sarkozy, comme le candidat de la rupture, alors qu'il est un pur produit de ce qu'il dénonce. Bon, il n'y a pas que lui qui a fait ça d'ailleurs. Mais enfin, il a inauguré la méthode. Ben, ça a marché.
Ça a marché. Nicolas Sarkozy, c'est formidable. Il est maire de Neuilly, vous l'avez rappelé, en 1983.
Ouais. À 28 ans. Il pique la place de Charles Pasqua par une entourloupe. Alors, je me permets de le dire assez formidable. C'est que Charles Pasqua est hospitalisé. À ce moment-là, Nicolas Sarkozy va voir Pasqua qui lui dit, bah voilà, tu m'arranges ça, tu prépares ma campagne. Sarkozy dit, bah très bien, j'y vais. Il voit tous les autres.
T'inquiète, Charles.
À la mairie de Neuilly. Et en gros, il leur dit, bah attendez, c'est pour moi qu'il faut voter, c'est bien. Et il lui pique la mairie quand même. Hein. Quel culot, à 28 ans. Formidable. Qu'est-ce qu'on disait? J'en ai perdu mon film.
Ben Nicolas Sarkozy, il est maire dès 1983.
Ah,
il est ministre dès 1993. Il est ministre de façon quasi ininterrompue de 2002 à 2007. Et il arrive à dire, la rupture, c'est moi. La rupture avec Jacques Chirac, c'est moi. C'est quand même un tour de force exceptionnel quand on a justement coché toutes les cases, qu'on a été maire, député, président de conseil général, député européen, ministre sur au moins 4 portefeuilles. Il a été au budget, à la communication, aux finances et à l'intérieur. Et ben là, il arrive à dire, bonjour, je suis neuf, je suis la rupture.
Alors, vous disiez qu'il n'avait pas vraiment de rival, un rival sérieux, au moins un. À droite, on verra si la candidate socialiste qui était opposée à lui était une rivale sérieuse. On le verra dans 3 minutes.
Si tu veux que les rêves sortent comme un bateau s'inonde, détruis les ombres, répands-toi. Comme un éclair sur les rancœurs des âmes pudibondes, Elles auront toujours de quoi suffoquer, crois-moi. Si tu veux battre le cœur comme un tonnerre gronde, n'obstine que l'âme, cette seule denrée, puis défends-toi contre la vertu de ce pour qui l'amour n'est qu'un mouvement que l'on peut faire de haut en bas. Oublie le reste du monde, oublie le reste du monde, oublie le reste du monde, car le monde t'oubliera. Oublie le reste du monde, oublie le reste du monde, oublie le reste du monde, car le monde t'oubliera. Ne rate pas cette danse que l'on te propose, que toutes tes nuits vomissent le jour sans lendemain. Sois nébuleuse, comète ou albatros. Mort au malin, mort au malin, mort au malin. Oublie le reste du monde, oublie le reste du monde, oublie le reste du monde, car le monde t'oubliera. Oublie le reste du monde, oublie le reste du monde, oublie le reste du monde, car le monde t'oublie déjà.
Luc, le reste du monde sur France Inter. Vous écoutez Affaires Sensibles, consacré aujourd'hui à la conquête du pouvoir par Nicolas Sarkozy en 2007. Alors, puisqu'il ne peut pas y avoir deux vainqueurs, bah, il y a forcément une perdante, vous remarquerez la puissance du raisonnement. Et cette perdante, c'est Ségolène Royal. La question est, pourquoi a-t-elle perdu?
Ségolène Royal, elle est comme Nicolas Sarkozy et comme François Bayrou à cette élection de 2007, hein, faut pas l'oublier non plus. Elle est cet objet politique non identifié. Tous les trois, à leur façon, on a beaucoup employé ce mot-là, mais c'est vrai, tous les trois avaient transgressé pendant toute cette élection. Ségolène Royal, elle était la première femme en position de devenir présidente de la République. Elle s'était jouée de tous les éléphants du PS, à commencer par le premier secrétaire, son compagnon d'époque, François Hollande. François Bayrou, lui, il dit, faut s'affranchir de la droite et du centre, et de la gauche, il faut trouver une voie centrale, etc. Donc, Ségolène Royal, sa grande force, on l'a déjà dit, c'est toute cette capacité à rompre avec les codes. Pour ce qui aurait pu en faire effectivement une candidate dangereuse pour Nicolas Sarkozy, parce qu'elle était nouvelle et parce qu'elle était transgressive. L'un des problèmes de Ségolène Royal, c'est que d'abord, elle n'a pas été du tout aidée par le Parti Socialiste. Elle a plutôt été torpillée par ceux qu'on appelait les éléphants. Souvenir personnel de cette campagne, quand elle est désignée candidate, Ségolène Royal, du Parti Socialiste, je suis à l'époque journaliste à Lille. Je peux vous dire que dans les sections socialistes, chez les cadres socialistes, à commencer par la maire de Lille de l'époque, Martine Aubry, c'était pas le fol enthousiasme. Et que finalement, c'est Pierre Mauroy, à l'époque encore en vie, et à l'époque grande figure de gauche, qui avait décelé chez elle, chez Ségolène Royal, cette capacité à pouvoir aller loin, qui avait dû un peu serrer la vis et dire maintenant, c'est notre candidate, il faut la soutenir. Donc, Ségolène Royal, vous parliez tout à l'heure, effectivement, de certaines imprécisions sur le programme. Elle a été victime d'abord de son parti, des troupes. Elle n'a pas été soutenue par les éléphants, par les cadres, alors qu'elle avait une adhésion populaire très forte. Et puis après, peut-être que le programme n'était pas forcément bien bouclé, bien oui, chiffré, etc.
Et puis c'est aussi le résultat de ce qu'on appelle la démocratie d'opinion. En automne 2006, les instituts de sondage disent c'est elle qui sera la mieux placée pour Nicolas Sarkozy. Et ça évince des gens comme Dominique Strauss-Kahn et Laurent Fabius, qui ont quand même une stature. Ça ne veut pas dire qu'ils auraient gagné, mais enfin, c'est aussi le résultat de cela.
Et c'est là-dessus qu'elle pouvait représenter un danger pour Nicolas Sarkozy. C'était, j'en ai déjà deux de chute, Fabius et Strauss-Kahn, et bien je peux continuer.
Ouais, et ben ça n'a pas marché. Alors, on a parlé du rapport qu'entretient Nicolas Sarkozy avec la presse. Alors, on a beaucoup critiqué la presse. Forcément, dans une élection présidentielle, la presse, elle a un rôle important. Si vous voulez une élection sans presse, il n'y a pas de démocratie. Bon. Sauf que là, il y a eu un rapport quand même assez étrange qui a débouché sur une scène qui est, je crois, pour la profession de journaliste, une démission. C'était une démission, c'est cette charrette dans le Gard. Vous avez des journalistes embarqués dans une charrette et Nicolas Sarkozy fait son numéro à côté. Il est sur un cheval blanc et vous voyez tous les journalistes qui tendent leur perche et qui disent « Monsieur Sarkozy, Monsieur Sarkozy ». Il y a quelque chose, il y a un malaise là quand même, non?
Il y a effectivement une gêne à voir la presse comme ça, parquée dans une charrette. Vous savez, si les journalistes avaient été dans un véhicule un peu plus moderne, dans, je sais pas quoi, dans une camionnette ou dans un autocar, il n'y aurait peut-être pas eu le même aspect bétail ou bottes de foin.
C'est ça.
Ça, c'est la première chose. Ensuite, oui, effectivement, quand vous êtes dans ce genre de déplacement et quand vous êtes journaliste, vous êtes aussi tenu par les communicants. Ils vous parquent là, ils vous disent, il faut se mettre là et pas autrement. Donc il y avait les journalistes étaient en quelque sorte piégés par ça. Ensuite, pour en revenir au début de notre conversation, il y avait effectivement cette obligation d'être derrière toujours Sarkozy. Hein. On se dit toujours
il faut un micro son déplacement.
Au cas où. Ouais. C'était une expression qui revenait beaucoup à l'époque. Il faut un micro derrière Nicolas Sarkozy au cas où. Bon, bah le au cas où, ça fait que on y est tout le temps. Il peut y avoir cette image d'apparence grégaire ou suiviste. Ça ne veut pas dire que les journalistes tenaient tous des papiers pro-Sarkozy,
bien
ou bien
sûr,
meilleur que Nicolas Sarkozy. Mais effectivement, il a su comprendre que les journalistes étaient demandeurs d'images, étaient demandeurs de sons. C'est le début des chaînes d'info, de la montée en puissance des chaînes d'info continue. Hein. BFM TV naît réellement à cette époque-là. Ça, Nicolas Sarkozy l'avait compris aussi. Donc, à un moment, si vous voulez couvrir une campagne quand vous êtes un média généraliste, vous êtes obligé d'aller là-dedans. Parfois, quitte à aller un peu trop loin, ou surtout à être instrumentalisé par le candidat, parce que Nicolas Sarkozy a dû se régaler de mettre les journalistes dans une charrette.
Alors, la toute dernière chose, en 1981, lors de l'entretien entre le président sortant et le président élu, où ils se disent des secrets, François Mitterrand aurait dit à Valéry Giscard d'Estaing, mais pourquoi vous êtes-vous représenté? Est-ce que François Hollande aurait pu dire ça à Nicolas Sarkozy en 2012?
Alors là encore, on est là pour réécrire l'histoire.
Parce que, est-ce qu'il aurait eu des raisons de le dire? Pourquoi il se représente en 2012?
Il faut se souvenir que Nicolas Sarkozy, il a effectivement son image très abîmée pendant son mandat, mais que l'anti-sarkozysme, pour faire simple, est très fort. Mais face à lui, il n'y a pas là de candidat évident. François Hollande n'est pas le Sarkozy de 2007, n'est pas le Mitterrand de 80, n'est pas le Jacques Chirac de 95. Malgré tout, il est un candidat entre guillemets outsider. François Bayrou pareil. Donc non, Nicolas Sarkozy, voyant la situation politique de son point de vue, avait raison de se représenter.
Ce sera le mot de la fin. Merci infiniment Frédéric Mettezo. Au revoir.
À bientôt.
C'était Affaires Sensibles aujourd'hui, la route de Nicolas Sarkozy vers le pouvoir. Une émission que vous pouvez réécouter en podcast sur franceinter.fr. Rendez-vous également sur la page Facebook d'Affaires Sensibles. Merci Éric Morin qui était à la technique aujourd'hui. Demain, nous évoquerons l'histoire du château de Vaux, une apparition.